Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
6h41, les enjeux internationaux. Faute de financement, le programme alimentaire mondial a annoncé mardi qu'il serait certainement contraint de suspendre plusieurs de ses actions au Tchad à partir d'avril. Alors que les populations venant du Soudan continuent d'affluer, c'est sans compter sur ces autres régions du monde où la menace de famine plane ou s'intensifie, à Gaza, en Haïti, dans le Tigré éthiopien, à Madagascar ou ailleurs. Bonjour Mathieu Brun.
Bonjour.
Vous êtes directeur scientifique de la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, chercheur associé à Sciences Po Bordeaux. Il faut tout d'abord nous définir ce qu'est une situation de famine.
Alors il faut la définir dans un cadre qui est assez précis, scientifique et technique, qui relève aussi de données. Donc on va mettre derrière des situations qui sont catastrophiques un ensemble de classifications, presque des cases à remplir, mais c'est ce qui légitime l'action internationale. La famine, elle se situe dans le cadre global de la sécurité alimentaire qui veut que toute personne ait accès à tout moment, un accès physique et économique à une alimentation suffisante et de qualité. Donc on a là les principaux piliers, la disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité. Et la famine, en fait, elle se situe au stade 5, le stade ultime de cette insécurité alimentaire. Il y a 5 phases ou 5 stades, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Le 1, il n'y a quasiment pas de problème d'insécurité alimentaire. Et le niveau 5, on est au niveau de famine, ça veut dire que tous les voyants sont au rouge, il y a une mortalité très grave, les gens n'ont aucun moyen économique, ils ne peuvent pas vendre un peu de bétail ou vendre un meuble pour pouvoir acheter à manger. Et là, on est dans des situations de malnutrition sévère, de retard de développement, et malheureusement de mortalité, comme on le voit dans beaucoup de contextes.
Est-ce qu'il est possible de quantifier le nombre de personnes qui sont aujourd'hui atteintes de famine dans le monde ?
Alors aujourd'hui, il y a à peu près autour de 800 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Il est très difficile d'avoir des chiffres précis sur le stade 5 de la famine. L'exemple de Gaza le montre, c'est qu'il faut faire des rapports, des études pour le savoir. L'accès au terrain et aux données était très compliqué. Le programme alimentaire mondial a très récemment, hier ou avant-hier, donner les derniers chiffres pour Gaza, mais on serait probablement autour de 200-250 millions de personnes.
Alors, dans le cas de Gaza, on en a parlé il y a quelques instants, mais dans le cas de Gaza, la situation est tristement simple, c'est un blocus.
Oui, c'est un blocus, mais c'est aussi l'aggravation de situations économiques qui sont très graves. C'est un blocus, mais c'est aussi la destruction. On a à peu près 25% à un tiers des exploitations agricoles gazaouies qui sont détruites dans une des zones de la planète qui est parmi les plus densément peuplées. Donc l'accès même à l'outil de production est compliqué. En dehors de la guerre, il y avait déjà des difficultés d'accès à l'alimentation et des problèmes de malnutrition.
Un exemple de désorganisation, c'est Haïti, Mathieu Brun.
Alors c'est parmi les autres exemples de famine et de situation d'insécurité alimentaire sévère. On est dans des phases 3 et 4 sur Haïti. On se souvient il y a quelques années le tremblement de terre qui avait entraîné ensuite toute une succession de problèmes, notamment sur l'accès à l'eau, qui est aussi un élément très très important. Donc vous avez la désorganisation politique, la désorganisation logistique. Vous avez aussi les situations de conflit, comme le montre Haïti, qui en raison de conflits politiques peuvent générer des situation d'insécurité et de malnutrition.
C'est un peu ce qui prédomine, c'est-à-dire en fait la famine aujourd'hui est presque ce qui accompagne des conflits, Mathieu Brun.
Oui, on est dans des situations où les famines sont provoquées par trois facteurs qui peuvent parfois être tristement complémentaires. C'est les fameux 3 C, du conflit, du climat et de la crise. Les conflits, c'est ce qu'on voit quand on regarde la carte de la famine dans le monde. On peut aller la voir sur le site du Programme Alimentaire Mondial. Elles sont localisées principalement dans les zones de tension, dans les zones de conflit. C'est à peu près 2/3 des crises alimentaires qui sont causées par la faim. On pense à Gaza, au Tigré éthiopien, au Soudan du Sud, au Nigeria, au Sahel. Donc vous voyez, même au niveau géographique, on est très concentré sur le sud du continent africain, l'Afrique subsaharienne. Il y a d'autres raisons qui expliquent les famines et l'insécurité alimentaire, c'est le climat. Parfois même, elles sont malheureusement imbriquées, ces raisons. Le climat, on pense notamment aux déplacés internes qui doivent fuir leur terre à cause de sécheresse, à cause d'inondations.
Ça, c'est le cas où, par exemple
Ce sera le cas, par exemple, au Pakistan. Les inondations de l'année dernière, de 2022, pardon, ont entraîné un problème majeur.
Là, c'est une insécurité alimentaire. Ce n'est pas une famine ou c'est déjà une famine au
Pakistan? Au début, c'était une insécurité alimentaire et en raison de la destruction des capacités de production, sont des champs de riz, hein, pour être direct, a entraîné des menaces très fortes sur les récoltes. Et aujourd'hui, on a des situations de famine qui pourraient apparaître par manque de récolte et par manque d'accès à l'alimentation. Les cas de climat sont aussi visibles dans le sud de Madagascar. L'année dernière, on se souvient peut-être des images d'enfants qui étaient contraints de manger des chaussures de cuir parce qu'ils n'avaient plus rien en raison du kéré. C'est cette grande vague de sécheresse et de vent chaud qui détruit les récoltes. Là, on est encore dans une raison climatique de ces grandes famines.
Et Madagascar, c'est aussi, hélas, un bon exemple de mauvaise gouvernance ?
C'est aussi un problème exactement de mal-gouvernance, de crise du politique, de crise des ressources. Les deux sont largement liés, c'est ce qu'on explique assez souvent à la Fondation Farm. Et c'est aussi, malheureusement, les principales victimes, ce sont les agriculteurs. On le montre bien, on a un observatoire qui montre ça. Ce sont aussi celles qui sont, ces populations, les moins soutenues sur le plan de l'action publique et les premières victimes alors qu'elles produisent leur alimentation.
Le Tchad, dont on a parlé en introduction.
Alors le Tchad, on est dans une situation qui malheureusement accumule le risque climatique, le risque également de conflit, le risque politique et le risque de crise économique, d'inégalité très forte. Vous avez cette entrée de migrants qui viennent notamment du Soudan. Le Tchad, on est sur une flambée des prix également qui a été lancée ou initiée ou développée par la guerre en Ukraine, l'accueil de réfugiés. Les prix du sorgho, par exemple, ont bondi de 50%, ceux du mil de 30%. C'est près de 500 000 réfugiés du Soudan qui sont arrivés déjà en urgence humanitaire et en urgence alimentaire et qui arrive aujourd'hui au Tchad et qui rajoute malheureusement à cette équation terrible.
Et alors, il y a une situation générale qui a fait empirer un certain nombre de crises, Mathieu Brun, c'est le Covid d'une part et la guerre en Ukraine d'autre part.
Ce sont deux facteurs qui ont absolument engendré une hausse de l'insécurité alimentaire et, dans certains cas extrêmes, des famines. Alors le Covid, ça a été, vous l'avez rappelé, le triste anniversaire aujourd'hui, ça a été un désengrenage économique. La perte de revenus, la perte de capital économique. Et je l'ai bien dit, pour avoir de la nourriture, il suffit pas qu'elle soit là. Il faut pouvoir avoir l'accès économique, avoir les revenus pour l'acheter. Donc le Covid a entraîné ça. La guerre en Ukraine a eu des conséquences sur le prix et sur la volatilité des prix, à la fois des matières premières agricoles, même si le blé ukrainien ne nourrit pas l'Afrique subsaharienne, bien que le programme alimentaire mondial ça s'approvisionne auprès de l'Ukraine, mais c'est surtout la conséquence sur les prix des intrants, le prix de l'énergie, parce que pour produire de l'agriculture, il faut des intrants, il faut des semences, il faut aussi des engrais, et c'est ça qui a causé une hausse de l'alimentation.
Bon, et puis il y a donc des famines qui s'ancrent sur le long terme dans ce contexte-là, Mathieu Brun.
Oui, je pense que vous avez en tête le cas de l'Éthiopie, le triste cas de l'Éthiopie avec des malheureusement, on se souvient des crises des années 70, 84 ensuite et récemment cette nouvelle famine qui touche et qui est liée à un conflit, une guerre civile en interne qui a duré près de 2 ans et qui a fait 600 000 morts. Malgré la paix qui a été signée, on est toujours dans une situation très urgente d'insécurité alimentaire et de famine, dans un contexte où effectivement on est sur une zone éloignée, le Tigré, le nord du pays, parfois aussi une utilisation politique de la famine, c'est le cas assez souvent en Éthiopie.
Et alors en conclusion, qu'est-ce que l'on peut imaginer pour essayer de soulager ces populations donc en proie aux famines, Mathieu Brun ?
Les moyens d'agir existent, d'abord il faut faire la paix. Peut-être le rappeler est un petit peu ingénu, mais faire la paix, permettre un accès humanitaire, le Conseil de sécurité l'a rappelé, le lien entre conflit et sécurité alimentaire. Sans paix, pas de sécurité alimentaire. Sans agriculture, pas de sécurité alimentaire. Il y a aussi des moyens techniques, notamment les systèmes d'alerte précoce. Mais je voudrais finir par rappeler que il ne suffit pas d'amener un sac de riz, un sac de farine, un sac de nourriture à des populations. Il faut travailler sur tout ce qu'il y a autour, notamment l'accès à l'eau et à l'hygiène. On se souvient des épisodes de choléra ou de typhus dans des situations post-conflit après des tremblements de terre, eh bien ça c'est très important. Et pensez aussi au développement économique et donc de l'agriculture.
Merci beaucoup Mathieu Brun. Je rappelle que vous êtes directeur scientifique de la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde et vous êtes chercheur associé à Sciences Po Bordeaux. Dans quelques secondes, nous serons en compagnie d'Alexandra Delbo. Avec Science, on va voir comment les mathématiques peuvent améliorer les performances sportives des coureurs.